C'est le pape Benoît. C'est le pape Benoît XVI. Il nous propose une méditation. Le pape Benoît XVI. Il est resté 8 ans sur le trône de pierre jusqu'en 2013. Mais qui sont, qui donc sont ces mages? Le premier des quatre sens principaux. Oui, le premier des quatre sens principaux. C'est un théologien, donc il avant de faire un sermon, on prend un texte, et puis on prend les quatre sens de l'écriture, et puis après on fait l'homélie. Et donc c'est une méditation, c'est pas une homélie, puisque le premier sens, c'est le sens littéral. Puis après, le sens, le deuxième, c'est le sens vertical. C'est une lumière, la parole de Dieu vient sur moi, elle pénètre verticalement, et elle me réveille, personnellement. C'est une autre interprétation. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui va directement, et qui est en affinité verticale avec chacun de ceux qui l'entendent. Et tous ensemble, du coup, ils se lèvent, pour aller vers le bien éternel. C'est le sens midrashique, le troisième. Et une fois qu'on est emporté, assumé, aspiré, on lit une quatrième fois, et on voit que dans l'écriture, il y a suffisamment de puissance pour nous attirer tous, ensemble, dans les secrets éternels de Dieu. Alors, du coup, on peut faire le serment après. Il y a quatre sens de l'écriture. Excusez-moi cette petite parenthèse. Le premier des quatre sens principaux entend par le mot qui a été choisi par l'écriture les mages, des membres de la caste sacerdotale perse. Dans la culture grecque et hellénistique, ils étaient considérés comme des représentants d'une religion authentique. Et en même temps, pourtant, leurs idées religieuses étaient retenus comme fortement influencés par la pensée philosophique, de sorte que souvent les philosophes grecs étaient présentés, considérés comme leurs disciples. Les autres sens sont, pour ce mot choisi par l'écriture, pour les désigner comme mages, sont fondeux des détenteurs et des pratiquants d'un savoir et d'un pouvoir surnaturel, comme ce serait pour un magicien. Et on l'interprète aussi dans le sens d'escroc et de séducteur. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons cette dernière signification. magicien, un mage du nom de Bar Yeshua, est qualifié par Paul de fils du diable, d'ennemi de toute justice. Et saint Paul, par ses mots, de cette façon, l'a remis au pas. L'ambivalence du mot mage que nous trouvons ici met en lumière l'ambivalence de la dimension religieuse. La dimension religieuse comme telle est en effet à double face. La religiosité peut devenir un chemin vers une connaissance véritable, un chemin vers Jésus-Christ. Mais si, face à la présence du Messie et du Christ, cette religiosité, cette connaissance, ce savoir ne s'ouvre pas à lui et se pose contre l'unique Dieu et Sauveur, elle devient démoniaque et destructrice. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons ainsi les deux manières de lire ce que ce mot veut nous faire entendre. Dans le récit de saint Matthieu, sur les mages, la sagesse religieuse et philosophique est clairement une force qui met les hommes en chemin. En définitive, c'est la sagesse qui conduit au Christ. Dans les Actes des apôtres, au contraire, nous trouvons l'autre type de mage, celui-ci avec son savoir, sa connaissance, oppose son pouvoir au message de Jésus-Christ et se met ainsi du côté des démons, qui pourtant, désormais, ont été vaincus par Jésus dans sa mort, mais aussi dès sa naissance. Ah, c'est inhabituel ça, comme manière de fêter les rois mages. Les rois mages sont attirés par la lumière. Et moi, je connaissais, j'avais lu quelque part cette tradition chrétienne orale qui disait, mais d'où viennent les rois mages? Et les rois mages, d'où vient leur connaissance? D'où vient leur savoir? D'où vient leur ferveur à lire dans les signes de la nature, du ciel? D'où viennent leurs interprétations? Et j'avais lu que cette sagesse qui était en eux, puis qu'ils avaient fait développer à partir d'un germe, venait de Noé. Parce que Noé était un sage, c'était un contemplatif. La preuve, c'est que quand il se mettait en Dieu, il entendait sa voix. Et il a été tout intériorisé dans sa présence. Et il savait ce qu'il faisait pendant 40 ans en construisant cette arche gigantesque pour recueillir tous les êtres de vie dans leur germe futur. comme tous les prophètes d'ailleurs, Noé savait la profondeur des mystères qui s'annonçaient à travers les gestes qu'on lui faisait faire. De ce point de vue-là, la sagesse des rois mages est une participation. À la sagesse primordiale de la mère de Dieu, de la mère de la sagesse, créatrice qui réengendre une nouvelle terre, une nouvelle communauté, et ceci à travers le salut du futur Messie, du Sauveur qui avait été promis explicitement à Adam et Ève. Et tout était tendu sur la venue du Sauveur. Alors, et les trois, on dit qu'ils viennent d'Orient, parce qu'il y en a qui venaient de Saba, donc d'Arabie, plutôt vers l'Orient Sud. Et il y en a d'autres qui venaient, plutôt du côté de la Perse, et d'autres encore plus loin, venant de l'Orient, et de la Chine, quoi. Et chacun se sont retrouvés sur les routes, quoi, conduits chacun par la fameuse étoile. Mais ce qui les avait mis en route, c'est le fait que dans cette étoile, ils ont vu que cette étoile était une étoile vivante. C'était une étoile qui n'était pas un astre. C'était une étoile qui, avec les signes qui l'accompagnaient autour d'elle, montrait que c'était un ange de Dieu. Et donc, ils ont regardé l'étoile et ils ont prié avec la grâce de la sagesse primordiale. Et ils ont demandé à voir ce que cette étoile cachait comme secret en elle. Et dans leurs songes et dans leurs éveils, ils ont vu une femme et un enfant qui était en train de naître d'elle. Et que cette lumière de l'étoile, c'était la lumière qui passait de la mère à l'enfant et qui faisait sortir l'enfant de sa mère. Cette médiation de la lumière primordiale, et ils ont vu. De sorte que lorsqu'ils se sont retrouvés à un moment donné, conjoints sur la même route, ils ont échangé tout cela, et puis se sont réjouis de regarder une étoile, de la contempler. Ce n'est pas de l'astronomie ou de l'astrologie, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la divination. Chez les sages, c'est-à-dire chez Adam et Ève convertis, et entièrement tourné jusqu'à leur dormition, entièrement tourné vers le Sauveur. Chez Noé, c'est une vie contemplative. Quand je touche l'étoile, c'est pour pénétrer à l'intérieur d'elle en le secret vivant. Pourquoi ? Parce que la lumière naît de la lumière primordiale, elle doit revenir vers nous de manière visible, à travers une matière vivante, lumineuse et incarnée. Le mystère de l'incarnation, il leur a été comme ça, de cette manière annoncée. alors, ça donnait une joie incroyable. L'évangile qu'on vient de lire, le seul fait de regarder l'image et d'y pénétrer par la vision naturelle d'une foi agissante et d'un amour fou pour la lumière du futur sauveur, de l'actuel sauveur, de l'acte pur, de l'incarnation visible du sauveur, leur procure une joie, je ne sais plus comment dire en grec, mais dans le texte, mais c'est une joie. Mais alors, méta, je crois que c'est méta, mais total. Immense, immensément grande, et puis méta, prenant tout le monde de l'univers en l'absorbant en lui pour éclater. C'est une joie communicative à tout l'univers. Le seul fait de voir cette étoile, de sorte que quand elle les a conduits à Jérusalem, c'est ça qui est beau, elle disparaît, cette étoile. Elle disparaît à leurs yeux, donc ils sont obligés de s'arrêter à Jérusalem. C'est beau, ça. Je trouve ça très beau, cette fête de l'épiphanie, parce que elle montre que tout nous conduit dans les mystères de l'incarnation, de la nativité. Tout nous conduit vers la Jérusalem dernière. Tout nous conduit dans la Jérusalem, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, dans l'humanité entièrement revêtue de cette joie gigantesque, immense, traversant tous les éléments de l'univers, en se rassemblant dans le cœur de la Jérusalem dernière. Alors, combien de temps ils sont restés à Jérusalem, ça je ne sais pas. Mais on dit quand même. Pas mal de. Un petit peu. Ça ne pouvait pas passer inaperçu parce que. Il y en avait hein, des centaines de. Des dizaines, paraît-il. Peut-être 100, je ne sais pas. Et c'était des sages, mais c'était aussi des gens qui. Comme les juges d'Israël gouvernaient un petit peu leur peuple. Et donc ils amenaient les présents. Ils avaient influence sur le monde entier. Comme le pape Benoît l'indique ici. Ils avaient rayonnement, même s'ils étaient à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres, ils avaient un rayonnement, une influence royale, si on veut. C'est-à-dire une influence de sainteté jusque chez les Grecs. Et là, les rois de Saba, de Seba. Et donc, toutes les richesses des sagesses répandues, les sagesses, attention, pas des sagesses complètes, mais des sagesses quand même. Donnée gratuitement par Dieu, comme parfaitement, comme dit le pape, authentique, celle qui était sagesse, qui pouvait, s'il les suivait en obéissant de manière immaculée à la grâce de Dieu, les amener à Jésus, à la divinité et à la très sainte Trinité. Alors, c'est là qu'intervient un arrêt. On ne va pas directement du mystère de la nativité rédemptrice. Et même de la rédemption, de l'immolation du roi du ciel dans la terre. Il y a quelque chose qui arrête ce mouvement de l'animation immédiate de la Nativité dans la croix et la résurrection de Jésus. C'est le massacre des saints innocents. Ce mouvement, j'allais dire, tout naturel, de la lumière surnaturelle, dans l'espérance de tous les enfants de la terre, qui sont tous des enfants du même Père, et qui sont tous frères, et pour ainsi dire, arrêter, frapper, disloquer, séparer en deux un immense espace, il y a un arrêt. C'est Hérode, c'est le Sanhédrin, c'est le massacre des saints innocents. Et ça fait que c'est ça qui fait que dans le mystère de Noël, ces rois mages, ces représentants de la lumière chrétienne en germe, dans toutes les religions, c'est pour de voir que ces deux lumières et qui permettent de faire la pleine lumière sur la possible mais ce même de l'animation immédiate. La croix de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire l'avenir et l'ancien. Il a dû être Jérusalem déçu ne voit pas. Il y a une chose qui me plaît dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que c'est eux qui disent, ils se laissent conduire, ils savoir le lieu directement à la source de la révélation. Et dans le Saint des Saints, ils vont côtoyer le Saint des Saints. Ils vont aller au plus proche du Saint des Saints, le Temple de Jérusalem. Le peuple de Dieu sait tout ça. Elle sait par les sacrements, la révélation assez explicitement. Où est la demeurance de Dieu dans le Christ? Mais c'est à cause des mages, ou grâce à eux, grâce à leur ferveur, infantile, à leur ferveur sans phare, à leur ferveur native. C'est grâce à eux qu'on va savoir. À quel moment le mystère du temps. Sinon Hérode et apparemment les prophètes et les scribes et les pharisiens et la tradition sadducéenne avaient complètement perdu la révélation du mystère du temps. Et c'est les autres signes gardés, rendez compte d'une tradition qui date d'Adam et Ève, qui est renouvelée en Noé, elle a été, eux, ils ont été fidèles à la révélation reçue. Et c'est eux qui vont dire à quelle heure, à quel instant, la mère a mis au monde, la terre a donné son fruit. le Messie de Dieu, la lumière née de la lumière. Il y a une unité qui doit se faire avec tous les enfants de la terre à partir de la révélation qui leur a été faite du Verbe de Dieu dans la lumière et auquel ils ont acquiescé dans l'animation immédiate de leur oui, dans leur oui de la naissance de ce oui de Dieu dans la chair et dans la matière vivante. En sa main, en sa droite, Dieu a les sept étoiles, c'est-à-dire l'étoile vivante, immaculée, accomplie, parfaite et primordiale, terme terminant de toutes les déploiements, de toutes les perfections, de toutes les espérances humaines et principalement celles de l'animation immédiate. Ça nous parle spécialement ces jours-ci, ces années où nous sommes, cette année, je veux dire, où nous sommes. Et c'est pour ça que, comme dit le prophète Isaïe au chapitre 60, verset 5, il dit à ce temps-là, dans le temps en question, à l'heure qui est là, c'est les ténèbres, substantiel parce que c'est het yaratz yaratzim, c'est vraiment le ténèbre partout et absolu qui enveloppe toute la terre. Et que l'étoile apparaît, c'était la première lecture d'aujourd'hui. Ces ténèbres-là couvrent toute la terre. Une nuit, mais alors, obscure, enveloppe tous les peuples. L'opacité invincible d'un méchant total domine de partout. Au milieu, et en ce temps-là, le Seigneur se lève et la gloire apparaît dans la Jérusalem. La gloire de l'épiphanie, la gloire de la sponsalité, manifesté, incarné et atteignant son fruit dans la Jérusalem du fruit des sacrements. Au moment le plus dense de l'obscurité de la terre et des peuples, c'est là que Isaïe le prophète dit, posez votre regard vers Jérusalem, vers la cité qui est immaculée, glorieuse. Dieu lui-même, dans son incarnation venant jusqu'à vous, laquelle vous ne pourrez voir qu'à travers la lumière, née de la lumière, rendue visible dans la croix glorieuse, parce que la croix glorieuse est la source de la lumière du Noël glorieux de la Jérusalem dernière. Elle est l'heure, elle est l'instant de l'animation immédiate de l'Église dans son principe. L'Église dans son principe et dans un accomplissement divin, parfait, total, universel. Et également éternel. L'origine de l'Église, l'origine de la Jérusalem, elle vient de l'éternité de Dieu. La résurrection et la mort et la résurrection elle-même du Christ attendent cette heure où ils doivent pouvoir s'ouvrir à recevoir cette lumière en eux. Et voir les portes s'ouvrir. Et il y a un temps, il y a un arrêt. Et entre les deux, il y a l'intention du massacre des saints innocents. Il y a un arrêt qui se fait. Les pères de l'Église pourraient dire ça. Ça désigne qu'en ce temps-là, il va y avoir un arrêt à cause de l'Antichrist. Le dernier coup de queue de Satan. Lucifer. Lucifer convoite l'instant exact de la porte d'entrée dans la Jérusalem dernière. Lorsque je rentre dans cet instant exact de l'animation immédiate, de l'immaculée conception, qui est l'instant exact de la conception du Noël glorieux de Jésus, dans le sein, au milieu de l'amour caché et ténébreux, complètement secret de Marie et Joseph, qui est le même instant que l'animation immédiate de son union hypostatique, de leur union hypostatique d'assurée, en leur triple dormition, parce que leur dormition se sont conjoints ensemble comme les rois mages dans un seul instant éternel, hein, plus exactement un instant d'éternité venu en eux. Qui est représenté symboliquement par les rois mages, qui eux-mêmes ne sont pas des symboles, ils ont existé. Leur corps est encore là, à la cathédrale de Köln, en Allemagne. Mais ils désignent cet instant de l'animation immédiate, la conception immaculée de Marie, la conception du Christ dans son Noël glorieux, et la conception aussi, bien sûr, de la Jérusalem dernière, qui est l'union hypostatique des cieux de Jésus, ben, toutes ces trois conceptions se réalisent dans le même instant. Il n'y a pas plusieurs instants de la conception immaculée divine en Dieu et de Dieu en nous. Et lorsque nous mettons notre conception dans cet unique instant, parce que les rois mages nous ont révélé à quelle heure et quel est l'instant de l'animation immédiate, à ce moment-là, nous avons rentré dans la porte, la seule porte qui s'ouvre devant l'humanité entièrement disparue. Dans la ténèbre quasi-substantielle du monde de Satan. C'est l'animation immédiate qui nous permet de nous engloutir et à travers cette porte de rentrer dans la Jérusalem nouvelle. Ceux qui n'y rentrent pas n'y resteront entièrement engloutis, englués dans une couche de goudron noir. Une opacité invincible et à jamais. Mais ce qui rentre dans l'instant de la conception, l'animation immédiate de l'union hypostatique désirée dans l'immaculée conception et dans l'instant même de l'incarnation et dans la conception de cette Jérusalem-là, nouvelle, cela rentre et permet à l'étoile de réapparaître une deuxième fois et de nous acheminer jusqu'au Noël glorieux, qui est la disposition dernière à l'espérance du jugement dernier. et de la glorification de tout l'univers. Faut se laisser conduire comme des enfants. Faut se laisser conduire comme des enfants. Dans cette porte qui est en train de s'ouvrir, c'est un miracle de Dieu de savoir que cet instant et cette porte va être proclamée ouverte. C'est la vocation de l'Église d'ouvrir cette porte, d'y pénétrer, d'y laisser passer devant pour y pénétrer toutes les conceptions humaines. C'est la vocation royale, c'est la vocation royale, trinitaire, du véritable Israël de Dieu, que nous sommes dans le règne du Sacré-Cœur, qui doit se répandre dans l'univers entier. À partir de la sainteté accomplie et en affinité avec le Noël glorieux. Le monde ancien, ce n'est pas évidemment en regardant les ténèbres glauques et l'opacité invincible de ces ténèbres absolues et invincibles qu'on risque de trouver le chemin de l'étoile. Mais c'est en regardant l'instant. Et l'instant incarné. Par la foi, d'y pénétrer de la conception de la Jérusalem, dernière celle qui doit elle-même fleurir dans le Noël glorieux. Il faut vraiment regarder l'étoile. Parce que l'étoile rassemble de manière vivante toutes les étoiles. Toutes les révélations, toutes les inspirations, toutes les grâces reçues dans tous les hommes de bonne volonté, de tous les temps, tous les oui originels, de l'animation immédiate de chacun, se trouve dans une unité vivante à l'intérieur de l'instant même, révélée et manifestée infailliblement à la terre toute entière. Étonnée eucharistiquement dans la mer qui donne naissance à la dernière venue du Fils de l'homme, le Messie vivant, la joie parfaite et incréée qui est Dieu lui-même. Le Père nous a envoyé son Fils, et son Fils c'est sa joie parfaite, et sa joie parfaite nous est donnée dans le dernier avant, dans la dernière venue. Je trouve que cette leçon, elle est parlante pour nous, parce que on est vraiment au milieu du méchant. Il n'y a aucun intérêt à pénétrer dans le tintamarre de toutes ces méchomisations, de toutes ces vociférations ténébreuses. On n'a pas de temps à perdre. Nous adorons. Nous adorons, nous enfonçons, nous rentrons en l'intérieur du surgissement de la Sainte Famille en une unique conception. Et nous déployons toutes nos conceptions et la nôtre à l'intérieur de cette unique conception de la Sainte Famille. Le royaume de Joseph resplendit à partir de cette conception. Et la Jérusalem est conçue. celle du cinquième et du sixième secret. De la révélation de la révélation. On n'a pas de temps à perdre, c'est ça que je veux dire. Il faut vraiment rentrer en oraison et supplier le Saint-Esprit de nous ramasser un petit peu, de nous prendre en main et de nous engloutir lui-même dans cette porte, cette unique porte de la conception du Noël glorieux de la Jérusalem, de la Jérusalem, de l'Église dans son accomplissement immaculé, immaculé et parfait, s'intensifiant, allant de plénitude de grâce en plénitude de gloire, et de plénitude de gloire en plénitude de grâce, et faisant tourner ainsi ces deux plénitudes en un seul mouvement, qui est celui de l'Église, dans sa substance et dans son acte. Et c'est à cela que nous appartenons. On n'appartient pas à ce monde. Ce monde n'existe plus pour nous. Voilà. En tout cas, bonne fête. Nous souhaitons une bonne fête à la Terre tout entière, à l'univers tout entier. Nous souhaitons une bonne fête aussi au monde de l'anastase, de la résurrection. Nous souhaitons une bonne fête au monde angélique qui attend que nous puissions, nous, être les premiers à avancer pour faire naître, pour voir et pour faire resplendir cette conception de la Jérusalem dernière et du Noël glorieux qui doit s'y épanouir.